Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons David Santarossa. David Santarossa, bonjour, comment allez-vous?
Très bien, vous-même?
Très bien, merci. David Santarossa, essayiste en premier lieu. Vous avez publié récemment, en 2023, La pensée woke, analyse critique d'une idéologie aux éditions Libère, qui a été un succès en librairie, est-ce que je me trompe?
Oui, vraiment un beau succès. On le sait, les essais au Québec, c'est pas le type de livre qui est le plus vendu, mais il a circulé quand même beaucoup. Il y a eu beaucoup de réimpressions. Je ne sais pas, je suis rendu à combien de livres imprimés et vendus, là, mais je suis très, très satisfait, pour être bien honnête. Là.
Super. Vous êtes aussi chroniqueur à Cube Radio et Radio VM. Vous écrivez également pour l'Action nationale et la revue Argument. Et finalement, vous êtes professionnellement enseignant au secondaire. Vous enseignez quelle matière?
J'enseigne ECR, qui sera bientôt le défunt ECR. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et français, que j'enseigne plus français que ECR généralement.
Parfait. Finalement, vous possédez un baccalauréat, une maîtrise en philosophie, ainsi qu'une maîtrise en enseignement. Commençons par votre livre, hein, La pensée woke. Pouvez-vous nous en parler un peu? Nous dire les motivations, l'intérêt, pourquoi le sujet du wokisme?
Oui, donc, on entend le mot woke depuis quand même quelques années, ça fait, surtout depuis 2020, en fait, j'ai l'impression, depuis la COVID, entre autres, là, mais même un peu avant. Et puis, certains progressistes, certains néo-progressistes disaient que le wokisme, finalement, ça n'existait pas vraiment, que c'était juste un espèce d'homme de paille de la méchante droite conservatrice. Donc, j'ai essayé de regarder ce que des œuvres woke, si on veut. Donc, un documentaire de Fabrice Ville, un essai de Judith Lucie et un essai de Natacha Canapé-Fontaine et de Denis-Élise Béchard. Donc, et je me suis dit, ben, je vais les citer dans le texte, je vais citer le documentaire. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser de créer un homme de paix. Je veux dire, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. Et je me suis dit, si je me base sur des livres, ben, c'est normalement une œuvre aboutie, une réflexion aboutie. Et finalement, dans une chronique, et même moi je suis chroniqueur, là, donc je défends en partie ce médium, mais ça a ses limites. Évidemment, la chronique, on ne peut pas aller au bout de nos idées, mais dans un livre, on n'a pas vraiment de raison, on a toute la place qu'on veut. Donc je me suis dit, ça va être une bonne version du wokisme que je vais critiquer. Et surtout, en plus, si je peux rajouter, les trois œuvres que je critique, ils ont été accueillis de manière dithyrambique dans les médias, même sur des grands plateaux, notamment, tout le monde en parle. Donc, je me suis dit, on ne pourra vraiment pas m'accuser d'inventer des idées ici. Là. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre.
Là. Avez-vous été déçu de ne pas avoir été invité à Tout le monde en parle?
Je n'espérais pas nécessairement à Tout le monde en parle, mais j'espérais à tout le moins être invité sur des plateaux, que ce soit de radio, de télé, peu importe, où j'allais avoir des contradicteurs en quelque sorte. C'est arrivé, je suis allé au Monde à l'envers, la défunte émission Le Monde à l'envers, qui est animée par Stéphane Bureau. Et il y avait Judith Lucie justement qui était là. Mais par exemple, j'ai offert à Judith Lucie de faire un débat par la suite. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps. Bon, c'est possible. Fabrice Ville, il n'y a pas eu de réponse de son côté. J'ai envoyé des... mon livre aussi à différentes émissions à Radio-Canada, j'ai pas eu de réponse. Donc, j'ai véritablement voulu, et je pense que mon livre, il est quand même de bonne foi, là, c'est-à-dire que je tombe jamais dans les attaques personnelles ou quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour dialoguer, pour critiquer, mais j'ai pas reçu de réponse positive, en quelque sorte, du camp adverse. Là.
Le camp adverse dans Radio-Canada?
Oui, ben, c'est quand même... les médias publics, que ce soit au Québec ou ailleurs, c'est quand même un repère d'une gauche quand même assez radicale. Je pense qu'on ne peut pas se le cacher, même si j'ai déjà entendu la présidente de Radio-Canada dire que des fois, on accusait Radio-Canada d'être trop à droite. Honnêtement, j'ai jamais entendu cette critique-là, mais bon, oui, c'est... donc oui, à Radio-Canada, il y a du à gauche et il y a du très à gauche. Il y a très peu de quelque chose qui ressemble à une droite.
Oui, c'est plusieurs nuances de gauche, ça c'est clair. Bon, vous avez votre critique de ces œuvres et de ce livre, de ces deux livres et de ce documentaire. qu'on qualifierait de woke ici, là, en est une bonne, je vous dirais, pour l'avoir lu là, dernièrement cette semaine, justement, en préparation de l'entretien. Je recommanderais le livre, particulièrement aux gens qui veulent découvrir ce qu'est le wokisme et la critique qui vient avec, souvent aujourd'hui là, dans les médias, notamment les gens qui vont regarder Radio-Canada, par exemple, vont entendre certaines choses sans nécessairement associer des termes, des propos avec ce qu'on appelle le wokisme, ce que vous appelez aussi le néo-progressisme. Et votre essai, l'avantage majeur, je dirais, je ne suis pas ici pour vendre votre essai, là, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti en le lisant, d'être une présentation globale du wokisme et une critique, comme vous avez dit, honnête de cette mouvance. Mais j'ai envie de vous poser la question, bon, vous avez fait de la critique du wokisme dans sa version actuelle, si je peux dire. Où voyez-vous le wokisme aller? Est-ce qu'une destination, est-ce qu'une forme ultérieure qu'il va prendre à vos yeux, là, si vous aviez à vous projeter dans le futur, vous aviez à imaginer un peu quel sera l'environnement idéologique au Québec et en Occident dans les 5, 10 ou 15 prochaines années, comment verriez-vous la chose?
Une question qui est souvent posée, est-ce qu'on a atteint le pic du wokisme? Hein? Donc, pendant la COVID, on disait, est-ce qu'on a atteint le pic des cas? Ben là, est-ce qu'on a atteint le pic du wokisme et ça va diminuer par la suite? J'ai pas l'impression qu'on a atteint le pic encore parce que, et souvent on fait je fais un petit détour ici, souvent on dit, ah ben le wokisme aujourd'hui, c'est comme le marxisme il y a quelques décennies dans les départements universitaires, là, on va finir par décrocher de ça. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai non plus. C'est-à-dire que maintenant, il y a toute une bureaucratie woke avec l'EDI notamment, hein, équité, diversité, inclusion, qui entre dans les entreprises privées, dans les organismes gouvernementaux aussi. Et il n'y avait pas de bureaucratie marxiste, léniniste il y a quelques décennies. Donc, mais là, de plus en plus, c'est ce qu'on voit, et c'est une bureaucratie qui prend de plus en plus ses aises dans beaucoup d'entreprises. Donc, je crains que c'est là pour rester encore très, très longtemps. Ce que j'entrevois dans les prochaines années, je pense que ça, on va continuer, ça va se radicaliser. Donc, les propos iront toujours de. Il va toujours avoir une surenchère de surveillance du vocabulaire, en quelque sorte. Si je disais récemment, cette semaine, je crois, dans le Scientific American, qui parlait que le vocabulaire en astronomie est trop violent. Et on disait, par exemple, que quand il y a deux galaxies, je ne suis pas un expert là-dedans, mais quand il y a deux galaxies entrent en collision, ben, le mot collision, c'est trop violent. Et là, on proposait de peut-être dire que c'est comme c'est un article en anglais, de faire un galactic hug, donc une espèce de câlin galactique. Et là, ça serait moins violent. Donc, j'ai l'impression qu'on va toujours repousser de plus en plus le politiquement correct dans absolument tous les milieux. Et ça va devenir un peu, ben, c'est déjà dans certains milieux, là, presque invivable.
Vous avez dit les institutions publiques gouvernementales principalement n'étaient pas peuplées, si je peux dire, ou du moins habitées par des marxistes à l'époque. J'ai envie de dire que oui, en fait, à l'époque, même l'État, surtout l'université, était rempli de marxistes. Il y avait un livre, le nom de l'auteur m'échappe, un Américain qui avait écrit en anglais la mort bizarre du communisme, The Strange Death of Communism, et parlait en fait comment surtout les départements de sciences politiques, d'histoire et autres étaient peuplé là, presque entièrement de marxistes, et à la chute du mur de Berlin et l'écroulement de l'Union soviétique, ces gens-là se sont transformés du jour au lendemain, étaient multiculturalistes. Donc on avait laissé tomber le communisme, mais c'était les mêmes personnes, en fait. Pourquoi est-ce que je dis la chose? J'ai l'impression qu'une tactique gramscienne, donc inspirée de Gramsci, l'auteur et penseur communiste italien, où on veut justement investir les institutions, littéralement avoir des gens, dans ce cas-ci des wokistes, ou à l'époque des communistes, ou il n'y a pas si longtemps, ou peut-être encore aujourd'hui, des multiculturalistes. Particulièrement dans le secteur public, l'État, oui, les syndicats, oui, toute évidence, les universités surtout. Je dirais que, peut-être vous pouvez commenter là, sur la chose, mais ce qui est nouveau avec le wokisme, c'est que c'est les départements de ressources humaines dans les entreprises qui sont maintenant devenus presque le fer de lance, je pèse mes mots ici, mais capitaliste du wokisme. C'est pas un peu bizarre?
Oui, en effet, il y a même... et ça, j'ai fait beaucoup de lectures là-dessus. Je suis allé lire les... j'en parle un peu dans le livre. Les formations qu'on prétend antiracistes. Et je tiens à dire qu'on prétend antiracistes parce que ce qu'on se rend compte, et ça, c'est pas juste moi qui dis ça, il y a vraiment des études de terrain. On se rend compte que ces formations-là nuisent à ceux que ça prétend aider. Donc, c'est-à-dire que... Et ça, on le voit souvent avec le wokisme. On tente de défaire des stéréotypes en créant d'autres. Donc, on va défaire des stéréotypes autour des minorités, donc des autochtones, les noirs, les latinos, mais on va créer des stéréotypes sur même ces populations-là. Je cite un article dans le New York Times quand même qui dit que, je le cite de mémoire, là, mais que demander à des noirs d'arriver à l'heure, c'est un outil de la suprématie blanche. Traditionnellement, c'était un propos raciste de dire les noirs peuvent pas. C'est quelqu'un qui disait les noirs peuvent pas arriver à l'heure, sont tout le temps en retard, c'est dans leur culture. Ça, c'était un propos raciste. Et aujourd'hui, c'est un propos antiraciste de le dire. Donc vraiment, on a basculé, et c'est le genre de propos qui est dit dans ces formations-là, malheureusement. Et ce sont des formations qui misent davantage sur ce qui différencie les gens. Hein, donc, quand on est devant un groupe, peu importe son nombre, tout le monde a des différences. Eh bien, pour créer de l'unité, il ne faut pas jouer sur les différences. Il faut jouer sur ce qui nous unit, sur des buts communs, par exemple, sur des caractéristiques communes. Je pense qu'au Québec, on a cette chance-là qu'on est supposé mettre de l'avant le français comme langue commune. Ça, c'est un marqueur identitaire fort sur lequel on peut jouer. On est tous dans le même bateau, on a tous un même marqueur. Donc, peu importe nos différences, donc différentes origines, peut-être différentes religions, on a quand même quelque chose comme le fait français qui nous unit. Mais ce n'est pas ce genre de choses-là qu'on va mettre de l'avant dans ces formations-là. Au contraire, on va me dire, voici à quel point votre voisin est différent de vous. C'est vraiment ça l'idée.
Oui, tout à fait. J'ai lu aussi en parallèle, juste avant votre livre, en fait, le livre de Nora Bussigny, une journaliste française qui, dans Les Nouveaux Inquisiteurs, le titre étant Les Nouveaux Inquisiteurs, oui, publié chez Albin Michel, Mémoire, où elle a infiltré certains groupes qu'on pourrait nommer de woke, là, d'intersectionnels. Et pour voir un peu ce que c'était de l'intérieur, si on peut dire. Et surtout, là où j'ai bien aimé le livre, ce qu'elle apportait de nouveau, si je peux dire, de révélateur, c'est qu'elle faisait une enquête sur les affects du wokisme, donc les sentiments, les émotions qui viennent avec ce genre de mouvance. Et elle touche à un point qui, je crois, tous les intellectuels rationnels, je peux dire, là, qui approchent la chose d'une façon presque théorique, manquent. C'est que ces mouvements-là ont quelque chose de religieux qui fait appel non à la raison de ses membres, ou du moins plusieurs d'entre eux, quoi qu'en partie, là, faut pas, j'exclus pas la chose entièrement, mais on va chercher, si on peut dire, le cœur et l'esprit des gens en leur donnant le sens d'être du bon côté de l'histoire, là, pour dire les choses simplement, et être les gentils. Là, j'infantilise la chose, mais ce que Bussigny réussit à démontrer, d'ailleurs par son propre état psychologique tout au long de son infiltration, si je peux dire, c'est que les affects sont aussi importants que la question intellectuelle, à savoir, est-ce que on se bat à savoir est-ce que les woke ont raison, quand en réalité, on devrait peut-être se poser la question, qui réussit à influencer les émotions des gens, ou même, j'ai envie de dire, presque les générer, les émotions les plus profondes, les plus humaines, chez, que ce soit les étudiants universitaires, ou la population en général. Est-ce que c'est quelque chose que, vous en parlez plus ou moins dans le livre, des affects, du côté émotionnel de la chose, mais est-ce que c'est quelque chose dans vos recherches, dans vos lectures, dans votre analyse, qui aurait pu en faire partie, en fait?
Oui, vous avez entièrement raison. J'ai voulu garder ça sur le terrain de l'argumentation, du débat, mais vous avez raison que le wokisme joue beaucoup là-dessus sur l'idée que ça, c'est la nouvelle affaire. Hein? Donc, il y a une espèce de sophisme de la nouveauté ici. Là. Donc, on est rendu là. Hein? On se rappelle, c'était en 2015, je pense, hein? Justin Trudeau qui se faisait poser la question, pourquoi ça vous prend un conseil des ministres paritaire? Puis il avait juste répondu, parce qu'on est en 2015 ou 2016, je me rappelle plus de l'année exacte.
Comme c'était l'évidence même.
On est rendu là. Alors que normalement, dans un monde rationnel, c'est jamais un argument. l'argument, justement, c'est, on peut, ça pourrait être tout à fait justifiable, un conseil des ministres paritaire, mais l'argument ne peut jamais être parce qu'on est rendu là. Et avec le wokisme, c'est énormément ça. Hein, quand on parle de toutes les questions de non-binarité, par exemple, hein, ben on est rendu là dans la déconstruction du genre. Là.
Si ça empêche le débat.
Exactement, tout à fait. Donc, si vous n'embarquez pas là-dedans, ben, vous provenez du passé, de l'ancien monde, et évidemment, on est dans une époque ultra moderne, notamment avec une nouvelle technologie. Donc, il faut toujours être de son temps, c'est presque être en retard déjà. Hein. Il faut penser à demain tout de suite.
Oui, tout à fait. Bien dit. Passons à un côté un peu plus personnel, biographique. Pouvez-vous nous parler un peu là, de votre parcours intellectuel, peut-être même votre enfance, des événements marqueurs lors de votre formation, je vous dirais, bon, émotionnelle et intellectuelle? Vous avez étudié la philosophie, l'enseignement. Qu'est-ce qui a mené à tout ça? Est-ce que, comme j'ai dit, des moments marqueurs dans votre vie là, qui ont fait que vous avez décidé de prendre part au débat public, d'écrire, ce qui demande un certain courage, beaucoup de temps, pour l'avoir fait moi-même, là, je peux en témoigner. On vous écoute.
Oui, quand je pense à mon parcours intellectuel, il y a un moment fondateur, si je peux dire, qui m'a vraiment marqué. C'est quand j'ai vu, je ne sais plus si c'était en 2012 ou 2013, Mathieu Bock-Côté à Tout le monde en parle. Donc, c'est la première fois que je voyais un intellectuel, je pense, de ma vie. Donc, au Québec, je venais de rentrer au cégep à ce moment-là.
Un intellectuel public, hein? Je me rappelle aussi, là, pour couper la parole, mais ce que Bock-Côté apportait, je trouve, au Québec, puis je pense que je l'ai remarqué à peu près à la même époque que vous, là, c'était, bon, des intellos, il y en a eu avant, mais c'est sa présence publique, je crois, qui a vraiment, comment dire, marqué un avant et un après, là, presque.
Oui, exactement. Donc, tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, des intellectuels, ça faisait pas partie de mon quotidien vraiment. J'étais aussi très sportif, donc la vie des idées, c'est pas la chose qui me passionnait, mais en même temps, je ne la voyais pas. Et quand on est au secondaire aussi, au Québec, à l'époque c'était 2008, même dans ce coin-là, 2008-2010, ben même là, on lisait très peu de textes d'opinion, de textes en lien d'intellectuels. On va lire quelques romans populaires, puis c'est à peu près ça. Mm-hmm. Donc là, vraiment, à ce moment-là, je vois un intellectuel et je me dis, c'est quoi cette bébite-là? Ça existe au Québec. Et puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire Mathieu Bock-Côté. J'ai commencé à lire ses contradicteurs, des personnes qui l'ont inspiré. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un moment, un des moments fondateurs de ça qui m'a mené à lire bien d'autres personnes, là, bien d'autres auteurs, qui a fait en sorte que je m'inscrive aussi en philosophie ultimement. Là. Donc oui, ce moment-là, là, je pense qu'il a été vraiment important pour moi.
Est-ce qu'il y avait d'autres choix que la philosophie quand vous êtes entré à l'université? Est-ce qu'il y avait d'autres options auxquelles vous pensiez?
En fait, j'avais différentes options. Il y avait une option aussi, parce que j'étais pas encore certain que je voulais entrer dans la vie des idées. Mais tu sais, il y avait aussi l'option de faire quelque chose comme un baccalauréat en administration, faire un travail qui ne relève pas de la vie des idées. Mais finalement, j'ai décidé d'entrer dans la vie des idées. Je me suis dit, ben, on verra où ce que ça va m'amener. Et puis, à un certain moment, j'ai fini mes études en philosophie, j'ai commencé à enseigner. Je voulais avoir un brevet en enseignement au secondaire, donc j'ai complété la maîtrise. Et là, j'enseigne depuis 6 ans maintenant, au secondaire.
Au secondaire, oui. Le français et le cours ACR.
Oui, exactement. Parce que le cégep, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent en philosophie qu'ils aimeraient enseigner au cégep. Il y a quand même des... Je n'irais pas ça, mais il y a quand même des enjeux pratico-pratiques qu'avoir sa permanence au cégep, c'est très, très long. Quand on commence à avoir une petite famille, une maison à payer et qu'on ne sait pas si on va avoir un contrat à l'hiver, ça devient un peu plus complexe. Et au secondaire, bien honnêtement, je m'y plais quand même bien.
Oui, c'est une... comment dire... une variable incontournable pour un intellectuel au Québec. C'est qu'on ne peut pas vraiment gagner sa vie à faire la chose. Je pense en parler plus tard, là, mais on y est. On le fait presque gratuitement. Je pense que les gens ne réalisent pas souvent que tout le travail intellectuel au Québec, là, une grande majorité à part, c'est, comme vous l'avez dit, vous avez votre permanence au cégep ou à l'université, ce qui est de plus en plus difficile et rare, surtout pour des penseurs qui sont peut-être catégorisés comme conservateurs. Gagner sa vie à faire ça est à peu près, je ne veux pas dire impossible parce que rien n'était possible, mais presque. Donc, on doit travailler dans quelque chose d'autre. Les constellations pratiques, oui, sont importantes et disons, il faut jongler tout ça en même temps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a ralenti ou qui vous a déjà forcé à vous poser des questions?
Oui, souvent, presque à chaque... ouais, c'est ça. Oui, tu sais, un livre, écrire un livre, ben, on faire les lectures, écrire le livre, le réviser, l'envoyer à des amis, donner des commentaires aussi à des amis qui nous envoient leur propre livre. C'est beaucoup, beaucoup de temps pour pas beaucoup de dollars. Donc, on le fait vraiment parce qu'on considère qu'on défend des idées importantes. Et puis, moi, je fais partie des chanceux quand même qui a un certain réseau justement avec Cube Radio. Je connais bien Mathieu Bock-Côté. Donc, je suis réussi à avoir un certain réseau. Mon livre a fait du chemin et je suis tout à fait conscient qu'il est dans les livres dont on va le plus discuter. Il y a beaucoup d'essais que je lis qui sont très, très intéressants, mais qui ne se rendent pas nécessairement dans les médias. Là. Mm-hmm. Donc oui, c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'essayistes. Et oui, bien sûr, si tu es un prof à l'université et que tu fais dans les 6 chiffres, là, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre. C'est beaucoup plus motivant, c'est certain. Et pourtant, j'ai l'impression que même eux, ils hésitent bien souvent à publier dans des maisons d'édition un peu plus populaire, en guillemets. Donc, ils vont sortir des articles dans des revues confidentielles. Mais de publier des livres, ils vont très peu le faire, j'ai l'impression. Là.
Ouais, surtout des essais ou des livres qui iraient à l'encontre, si on veut, j'ai utilisé un terme plutôt lourd, là, mais de l'idéologie dominante dans les universités. Il y a un coût professionnel à payer. On parlait de Mathieu Bock-Côté, là. Je crois que c'était Stéphane Bureau qui lui avait posé la question. Est-ce que vous avez encore, je crois qu'il avait utilisé le terme, une crotte sur le cœur, en ce qui a trait à votre carrière universitaire, qui a finalement jamais vraiment abouti? Donc, il y a un prêt à payer professionnellement là, pour s'exprimer publiquement et surtout aller à l'encontre, encore une fois, de l'idéologie dominante. Je vous ai entendu quelque part dans un entretien mentionner que vous étiez plutôt conservateur. Pouvez-vous nous parler de... Bon, on parlait de cheminement intellectuel. Comment vous en êtes arrivé? Ceci, ou est-ce que je me trompe, en fait, là?
Non, vous savez pas.
Donc, ouais, peut-être parler un peu, là, peut-être des auteurs que vous avez influencés, peut-être des expériences qui vous ont mené à ça aussi, ou comment vous en êtes devenu à vous considérer comme conservateur. Petite anecdote, je me rappelle, j'en discutais avec un ami, pas tout le monde le sait, mais j'ai écrit un livre sur le conservatisme, et si on lit mes écrits, là, je pense que c'est assez évident que je suis pas de gauche. Et un ami m'avait posé la question une fois... Quand es-tu devenu conservateur? C'est comme s'il y avait un avant et après. Comme si tout le monde était de gauche par défaut et tout tard, ou à un certain moment, certaines personnes dans leur vie allaient comme basculer. Je pense qu'aux États-Unis, il y avait pas un dicton, là, mais une façon de parler qui disait quelqu'un qui est conservateur, c'est quelqu'un qui était de gauche, mais qui s'est fait voler dans la rue. Il a soudainement est devenu conservateur. Donc, comment est-ce que la chose est advenue chez vous?
J'ai toujours eu un sentiment. En fait, je reprends mon idée. C'est-à-dire que la gauche universitaire, on va l'appeler comme ça, j'ai l'impression qu'elle, peut-être qu'on tombe dans les affects, là, elle veut systématiquement s'opposer au peuple aujourd'hui. Donc, dès que le peuple a une intuition, une préconception, on dirait que la gauche veut s'y opposer. Systématiquement. Et à l'inverse, j'ai toujours eu l'idée que, non pas que l'intuition était du grand nombre était la bonne, mais qu'il y avait à tout le moins des bonnes raisons d'avoir cette intuition-là. À nouveau, je ne prétends pas que toutes nos intuitions du grand nombre sont bonnes. Là. Tantôt, je défendais la rationalité. Je pense qu'il faut... C'est important de remettre en question nos présupposés. Mais en même temps, tu sais, au fil des siècles, au fil même des millénaires, la société quand même réussit à créer certaines choses de bonnes. Alors que j'étais à l'université en philosophie et t'écoutais les gens et tu avais l'impression que tout était mauvais. Hein? Donc, ils sont tous en train de taper sur leur MacBook Pro en expliquant que le monde est absolument épouvantable. Et là, tu te dis, ben là, il doit y avoir des nuances à faire à un certain endroit. Et oui, avec le conservatisme, il y a un peu cette idée-là. Donc, que justement, le monde est à préserver. Hein, moi, je me suis. Vous me demandiez les auteurs qui m'ont marqué. Alain Finkielkraut en France, c'était un auteur important pour moi. J'en ai fait mon mémoire de maîtrise à l'université. Donc l'idée que. Lui, il parlait de la France, mais il parlait aussi du Québec dans certains écrits. Que le Québec, c'est quelque chose de périssable qu'il faut préserver. Et j'ai envie de dire, et c'est là peut-être que Finkielkraut, qu'on est aussi à la droite, mais qu'il y a un petit côté de gauche aussi, c'est-à-dire que la solidarité sociale se crée autour du commun, se crée autour d'un élément de commun, un trait identitaire qu'on partage. Si je ne partage absolument rien avec mon voisin, qu'on n'écoute pas la même musique, que les mêmes séries télé, qu'on ne parle pas la même langue, la même religion, etc., ben, il y a un moment donné où tu commences à te dire ben, pourquoi je paierais mes impôts? Pourquoi j'aurais de la solidarité sociale? Et ça, d'ailleurs, il y a eu des études, notamment d'Harvard, et on le sait, si c'est Harvard, c'est correct, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est une bonne étude, qui disait ça, que la diversité pouvait nuire à la solidarité sociale. Et puis.
C'est l'étude de Robert Putnam, je crois, Bowling Alone voilà. In America, si je me rappelle bien, ouais, tout de suite, c'est à peu près ça. Non?
Je me rappelle, c'était Putnam, je ne me rappelle pas du titre, par contre, mais vous avez entièrement raison. Et même, vous pouvez aller voir ça sur Internet, ça, c'est un peu politiquement incorrect de le mentionner, mais c'est Amazon, c'est avec Whole Foods, donc une chaîne d'épicerie aux États-Unis.
Ouais. Qui appartient à Amazon, qui est achetée par Amazon. Ouais.
Exactement, et ça, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est indiqué que il identifie dans quelle ville il y a des hauts degrés de diversité. Et plus il y a de diversité, il remarque, moins il y a de syndicalisation. Donc, parce que les gens, justement, vont moins discuter sur l'heure du dîner, etc. Je prétends pas que diversité nuit nécessairement à la cohésion sociale, mais il y a clairement un potentiel de nuire à la cohésion sociale.
C'est un défi au minimum.
C'est un défi, exactement. Mmh. Et souvent, aujourd'hui, on ne va pas le voir comme un défi, mais ça va de soi. Je veux dire, tu as des personnes qui arrivent avec une culture différente, une religion différente, une langue différente. Si ça ne cause pas un défi à la cohésion sociale, ben, qu'est-ce qu'ils vont poser? Donc, oui, ça pose un défi, mais c'est très politiquement incorrect de le dire et ça nous empêche, j'ai l'impression, de voir de face, de faire face à ces défis-là, là, malheureusement. Là. Donc, je pense qu'avec le conservatisme, justement, on a tous les... Le conservatisme peut aborder ces défis-là du 21e siècle qui seront très importants. Le progressisme, j'ai pas l'impression. Le progressisme est dans une logique de ben, on accueille tout le monde, puis on verra ce qui arrivera après. Puis on voit quand même des enjeux en ce moment avec le conflit israélo-palestinien, avec des manifestations, des criminels. Mm-hmm. Je veux dire, dans des classes, des enseignants, des enseignantes qui se censurent énormément en lien avec ce.
On l'a vu en France.
On l'a vu en France, en effet. Donc, est-ce que le progressisme aborde cette question-là? Jamais, parce que ça va remettre en question un de ces présupposés, justement, que bon, on a juste à accueillir des gens puis tout va se régler par soi-même.
C'est paradoxal dans le sens où la gauche, à une certaine époque, et là, je cite de mémoire Georges Marchais, président du Parti communiste français à l'époque des années 70 jusque dans les années 80, là. 70 en fait. Et Marchais était contre l'immigration, donc on ne pouvait pas être plus de gauche qu'un Marchais. Marchais, était. Travaillait étroitement avec l'Union soviétique, disons comme ça. Et était contre l'immigration parce que, aux yeux de communistes comme lui, l'immigration était l'armée de réserve du capitalisme. Je vous pose cette thèse, qui est pas la mienne, mais qui est assez répandue, mais dont on parle relativement peu. C'est celle que la gauche a été vaincue par le capital, donc la classe du capital. Et maintenant, ce qui est bizarre, c'est que... Ben, bizarre. Paradoxal, comme je disais, c'est que vous avez mentionné ce qu'on appellerait globalement la gauche et pour l'immigration de masse, qui est une inversion de sa position initiale, du moins de sa position communiste. Et c'est quand même assez intéressant de voir que cette position d'immigration de masse fait bien l'affaire du, je vais dire ça comme ça, le grand patronat, donc la classe du capital. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais ouais. Vous écoute.
Oui, ben aux dernières élections, ça, Québec solidaire et le Conseil du patronat marchaient main dans la main en demandant une hausse de l'immigration. Et j'ai l'impression aussi que, c'est-à-dire que d'un côté, le patronat veut augmenter la population du Canada parce qu'il va augmenter le PIB, pas nécessairement le PIB par habitant, qui risque de diminuer, mais le PIB va augmenter. Et puis, ben, évidemment, si tu es, je ne sais pas, un propriétaire d'immeubles à logement ou propriétaire d'immeubles en général, ben oui, évidemment que tu veux plus de personnes. On va en faire des grandes tours à Montréal, des épiceries, même chose. Donc, on comprend pourquoi le patronat veut plus d'immigrants. Tantôt, on parlait des affects. La gauche, c'est essentiellement pour des bons sentiments. Mm-hmm. Alors que, et ça, ça fait longtemps que je vais écrire un texte là-dessus, du côté de la gauche, il y a une forme de romantisme de la misère. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours le pauvre petit immigrant qui l'a donc bien difficile. Évidemment, c'est le cas pour beaucoup d'immigrants, mais il y a aussi beaucoup d'immigrants qui ont beaucoup d'argent.
En fait, surtout.
Oui, exactement. Moi, je me rappelle dans une ancienne école où je travaillais, un de mes élèves allophone qui avait de la difficulté à parler français, son père était propriétaire d'un nombre important de stations-service. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc là, tu te dis, OK, non, mais là, on n'est pas du tout dans le romantisme de la misère du pauvre petit immigrant qui a de la difficulté. Au contraire, il est plus riche que tout le reste de la classe. Mais tout ça nécessite beaucoup de nuances, justement. Et ce sont aussi des immigrants économiques qui cherchent à faire de l'argent. Et même, ça, c'est l'autre enjeu qui n'est jamais mentionné, mais qu'il y a certaines personnes à gauche en parlent. Les pays occidentaux qui vident les pays en développement de leur main-d'œuvre, notamment les infirmières. Il y a eu des articles, notamment du Guardian cet automne, qui parlaient de ça. Là. Donc, des pays où ils ont très peu d'infirmières. Et des sociétés riches comme justement la Grande-Bretagne, la France, etc., fait des belles offres à ces personnes-là, donc quitte. Donc, on met dans le trouble ces pays en développement. Mais ça, on en parlera. Donc, c'est nourri de bons sentiments, mais si on gratte les bons sentiments, ils ne sont pas du tout justifiés.
Ouais, c'est des bons sentiments de surface, surtout.
Oui, exact.
Ouais, tout à fait. Et qu'on regarde d'ailleurs la nature même de l'immigration. Oui, il y a des réfugiés là, qui arrivent de régions disons, dévastées économiquement ou par la guerre. Pour des causes naturelles, aussi des désastres naturels, mais il y avait quelques livres qui avaient été publiés là-dessus. En fait, on s'est rendu compte que c'est la classe moyenne en ce qui a trait à l'Europe et la migration à partir de l'Afrique. Donc, on a entendu parler de la migration vers Lampedusa en Italie, là, dans la Méditerranée, et on s'est rendu compte que ces gens-là étaient souvent, encore une fois, de la classe moyenne des différents pays dont ils venaient. Donc, ils n'étaient pas riches par des standards occidentaux, mais ils n'étaient pas pauvres non plus d'après les standards de leur propre pays. Donc, il y a clairement un fétichisme, je crois, là, une espèce de Jean Valjean du tiers-monde, si je peux dire, qui vient de la gauche, qui est un peu déconnecté de la réalité, à mes yeux, du moins. Et encore une fois, là, je pense que vous l'avez bien dit, c'est des bons sentiments de surface. Dès qu'on dépasse la surface, on se rend compte que la logique tient très peu. Si je peux passer au prochain sujet, on a parlé de conservatisme et dans votre livre La pensée woke, vous terminez en parlant bon, du rôle de l'intellectuel au Québec, ça on a déjà fait, du jeune intellectuel en particulier. Et j'ai envie de vous poser la question, quel est le rôle du jeune intellectuel conservateur aujourd'hui au Québec? Pourquoi je dis conservateur? Parce que c'est assez rare de un, surtout jeune de deux. Des jeunes conservateurs, il y en a. Il y en a plus qu'on pense, je dirais, il y en a beaucoup plus qu'on pense même. Ceci dit, il y en a relativement peu qui prennent la parole publiquement. Comment concevez-vous votre propre rôle, si je peux vous catégoriser de cette façon, et tout simplement là, du jeune intellectuel conservateur au Québec aujourd'hui?
Il y a souvent l'idée que les jeunes sont très à gauche, sont très woke. Hein? Ça revient souvent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, si on regarde dans des médias, dans Le Devoir, les jeunes sont généralement très à gauche, des magazines sur le net comme Urbania, donc c'est très à gauche. Mais moi, je travaille dans les écoles, mais je trouve mes élèves, je ne dirais pas à droite, mais radicalement anti-woke. Et j'ai envie de dire vulgairement anti-woke. Donc, ils se tournent vers des figures comme Andrew Tate, par exemple, qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Mes élèves m'en parlent beaucoup. Et puis, donc parce qu'ils sentent, et ça, c'est fascinant, parce que un adolescent a toujours un esprit un peu rebelle. Hein, donc, il veut s'opposer aux parents, à l'enseignant. Et là, il se rend compte que l'idéologie dominante, c'est l'idéologie woke, qui lui dit que finalement, les hommes puis les femmes, c'est construit socialement, qu'on parle souvent de sujets. Donc, l'adulte qui lui parle souvent des trans, alors que l'élève se dit, ben, il me semble que ça fait pas tant que ça partie de mon quotidien, et pourtant, on en parle souvent. Donc, l'élève, il a l'impression, il voit le réel, il voit c'est quoi la pensée dominante. Donc, il se dit, ben, je me cherche une figure qui va s'y opposer radicalement et vulgairement, et ce sera Andrew Tate. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, parce que mes élèves ont certaines intuitions, mais est-ce qu'ils vont... mon travail, ce n'est pas juste pour mes élèves, quoique ma dédicace de mon livre, hein, je l'ai faite à mes élèves, qu'ils posent des questions, justement, aux adultes qui les entourent. Mais c'est... Donc, l'idée, c'est d'un peu intellectualiser ces intuitions-là, de les adoucir aussi, parce qu'en rationalisant le tout, je pense que ça nous civilise en quelque sorte. Et parce qu'eux, justement, ils se tournent vers des figures qui vont être vulgaires, pour le peu que je connais de lui, je ne partage pas du tout ses idées, mais je comprends pourquoi un jeune voudrait se tourner vers lui, voudrait se tourner vers une figure radicalement anti-woke, une figure ultra-masculine, ultra-virile, justement, parce qu'ils ont le pressentiment que ce qu'ils voient sur TikTok, c'est pas du tout ça. Donc, c'est un peu ça, je dirais, intellectualiser. Le rôle d'un jeune intellectuel conservateur, c'est d'intellectualiser, je pense, les intuitions du grand nombre, que ce soit les élèves ou même des gens qui suivent l'actualité, qui ont leur travail de 9 à 5 comme beaucoup de personnes. Et je comprends tout à fait que pour beaucoup de personnes, ils n'ont pas le temps nécessairement d'intellectualiser tout ça et que des fois, ils vont s'opposer à ces idées-là en disant simplement « ben voyons donc, ça n'a pas d'allure ». Ben, je pense que notre rôle, c'est de leur donner des outils supplémentaires qui vont intellectualiser justement ces intuitions.
Oui, tout à fait. J'ai l'impression aussi, là, je me base sur ma propre expérience du secondaire, si on veut dire. Pardon. Le discours qu'on avait à l'époque, parce que c'est quand même plus de 20 ans, là, mais bon, était beaucoup plus, je dirais, à droite, même si je ne l'aurais pas qualifié comme tel à l'époque, que le discours dominant dans les médias, dans les institutions, que nos profs même. Je me rappelle que les profs étaient quand même pas choqués, mais surpris des propos que certains élèves tenaient. Et j'ajouterais la chose suivante. Je suis allé dans une école secondaire à Montréal, dans un quartier extrêmement multiethnique. Et ce qui choquait les professeurs, c'est que la majorité de la classe était soit des premières générations, soit des immigrants en bonne et due forme, là, si on peut dire. Donc, des immigrants et des enfants d'immigrants, si on peut dire. Et leur vue, en moyenne, était beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus traditionnaliste, je dirais. Ce qui allait directement à l'inverse, ou presque, de ce que certains profs disaient, surtout sur les grandes questions sociétales, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué la même chose dans vos classes, ou est-ce que ça a une influence? Parce que j'ai envie de dire, j'ai vécu la chose à l'époque, il y a plus de 20 ans, mais est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, se diraient conservateurs? Tu sais, je dirais peut-être pas. J'imagine qu'ils votent quand même pour des partis relativement de gauche. J'ai envie de dire Parti libéral, par exemple, ou même le Québec solidaire ou le NPD, des choses comme ça. Donc, il y a une espèce de dichotomie ou une différence entre ce que certaines catégories de la population vont dire idéologiquement parlant, ou du moins comment ils vont concevoir la société, et ensuite, politiquement parlant, comment ils vont se comporter.
Oui, il y a un vote qui se fait parfois par réflexe. Hein, donc, ma famille, on a toujours voté libéral, donc je vais voter libéral. Hein, tu as des familles comme ça, mais vous avez entièrement raison que je ne suis pas. Tu sais, par exemple, sur la question du genre, sur la question des transgenres, sur la question de l'homosexualité. Moi, j'ai une élève qui m'a dit récemment. Mon père, c'est un immigrant, donc il ne croit pas à ça, les transgenres. Et Et je trouvais ça... donc, il y avait là une essentialisation vraiment de la population immigrante, de dire, ben les immigrants, là, n'y embarquent pas dans ces... C'est comme ça que je l'ai perçu, peut-être je me trompe, mais ça, c'est des affaires de blanc, en quelque sorte.
Ah, j'ai entendu exactement la même chose. Non, vous avez bien dit, en fait, ça vient de me revenir. Là, au moment où vous me l'avez dit, ça vient de me revenir. J'ai entendu cette phrase presque mot pour mot à plusieurs reprises.
Oui, donc... Donc oui, c'est manifestement une réalité qui existe, que je ne pourrais pas quantifier, là, je ne prends pas en position de ça, mais c'est clairement une réalité qui existe. Il y a aussi des propos qui seront homophobes chez des personnes d'origine canadienne française, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, mais oui, il y a quand même mais il y a une population... Ça me paraît évident qu'il y a des propos qui sont, oui, qui ne sont pas conservateurs sur le plan politique, mais qui seront justement traditionnalistes en quelque sorte. Et puis, donc oui, il y a là, ça c'est d'autres contradictions, je pense, de la gauche néo-progressiste, là, c'est-à-dire que les groupes qu'ils défendent ne s'aiment pas nécessairement entre eux. On a vu aux États-Unis les Queers for Palestine. On n'a pas l'impression que nécessairement la Palestine est pour les Queers, là. Donc, l'un est peut-être vrai, l'autre peut-être pas.
Oui, le sentiment n'est pas réciproque.
Et voilà.
Avant de passer au prochain sujet, on parle de conservatisme, gauche-droite, ces choses-là. Comment voyez-vous l'axe évoluer au Québec? J'ai envie de dire que les gens... Comment dire? Il y a eu une certaine opposition au multiculturalisme. Je remonte à quoi? 2007, lors de la crise des accommodements raisonnables de mémoire. Les gens qui se sont positionnés contre les accommodements raisonnables, grosso modo, étaient aussi contre le multiculturalisme. Et depuis, j'ai envie de dire, ou du moins ils sont qualifiés comme étant de droite. Et ceux qui étaient pour les accommodements raisonnables et donc le multiculturalisme, aujourd'hui, c'est à peu près se qualifieraient sûrement de woke ou du moins sont largement influencés idéologiquement par ce qu'on appelle le wokisme. Et ces deux blocs ont un peu évolué depuis, là, au point qu'on entend à peu près plus parler multiculturalisme aujourd'hui. À l'époque, ben, on mentionnait Mathieu Bocoté, mais je pense qu'il s'est fait connaître en premier, en grande partie, à cause de sa critique du multiculturalisme. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. On parle de wokisme. Mais bon, les camps sont restés relativement les mêmes. Donc, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous voyez la chose en termes de débats gauche-droite au Québec dans les prochaines années?
Ce que j'observe, c'est que aujourd'hui, la seule question politique qui existe, c'est la question identitaire, et je m'explique. La question économique gauche-droite n'existe plus. Hein. Souvent, on dit la CAQ, c'est un gouvernement de droite économique. L'État a grandement grandi avec la CAQ. Donc, quel drôle de gouvernement de droite économique qui grossit sans cesse l'appareil de l'État. Donc, ça, c'est la première question à se poser. Donc, la droite économique, on pourrait dire que le Parti conservateur, peut-être, du Québec, ça serait une véritable droite économique, mais bon, ils n'ont pas encore d'élu à l'Assemblée nationale. On en reparlera peut-être à ce moment-là.
Mais pas identitaire. Toutes les questions d'identité, toutes les questions, j'ai envie de dire, sociétales, de traditionalisme, est évacué complètement par le Parti conservateur du Québec. Là. Ce n'est que, vous avez tout à fait raison, c'est un parti qu'on pourrait qualifier de libéral économiquement, je dirais même libertarien, mais toute autre question qui sort du domaine économique, le PCQ, on parle à peu près pas.
Non, vous avez raison. Ils ont fortement critiqué la loi 96 sur le français. Mm-hmm. Moi, je serais curieux de leur poser la question, sont-ils pour ou contre la loi 101? Au Québec.
Il y en a beaucoup qui seraient contre, surtout à beaucoup. Québec, dans la grande région de Québec,
ouais.
Bizarrement.
Oui, j'ai beaucoup d'amis qui viennent de Québec qui me disent qu'il y a beaucoup de gens à Québec qui sont contre la loi 101. Donc, ça serait intéressant de leur poser ces questions-là. Ils vont s'opposer, par exemple, ils vont avoir des sujets qui vont faire les manchettes, comme la question des drags, où là, ils vont parler de ça, des drag queens, mais ils n'aborderont pas nécessairement les questions de laïcité, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est pour ça. Et sinon, les questions, donc oui, politiques à l'avenir. Donc, c'est ça, c'est vraiment ces questions-là, parce que tout le monde, tu sais, au débat des chefs, c'est tout le temps, on va mettre plus d'argent là-dedans, puis on va mettre plus d'argent dans tel programme. Tout le monde s'entend là-dessus, essentiellement, parce que ça, je le remarque, hein, dans notre société, la solution, c'est toujours de mettre plus d'argent.
Et plus d'État.
Et plus d'État, donc. Ça ne peut jamais être une responsabilité individuelle. Donc, tu sais, tantôt, je défendais la solidarité sociale, et je je pense que c'est important. Je suis un héritier de la Révolution tranquille en ce sens, mais il y a quand même une limite où à ne pas franchir. Donc, l'État, mané, doit savoir où est la limite. Et par exemple, à l'école, l'école a toujours de plus en plus de responsabilités. Hein. Donc voilà. Donc, c'est ça. Donc, bref, je reviens sur la question politique. Là. Donc, la question identitaire, que ce soit le français, que ce soit la laïcité, c'est ces questions-là, je pense, qui seront importantes sur le plan politique, qui seront débattues. Et puis, là, on va le voir, il va y avoir des jugements importants concernant la loi 21, concernant la loi 96. Et là, soudainement, peut-être que c'est davantage un souhait que la réalité, mais soudainement, peut-être que la politique va revenir au Québec. Parce que pour les gens qui sont nés dans les mêmes années que moi, tu es en 93, j'ai 30 ans, la politique a été à peu près uniquement de l'administration. Hein, on administrait un budget. Il n'y avait pas d'enjeu politique, d'enjeu constitutionnel, des idées, une vision plus générale de la politique. C'était vraiment
de la technocratie à ce point-ci. Il y a un assèchement de la politique. On ne parle que de politique appliquée. Je veux dire, ici, il n'y a pas de grande politique ou de métapolitique. On ne parle que à savoir combien il faut d'infirmières par quart de travail dans tel hôpital à telle période de l'année. Et on parle à peu près que de santé, un peu d'éducation. Puis le débat au Québec ces temps-ci, politique et même, j'ai envie de dire, dans les médias, c'est à peu près ça.
Oui, exactement. Donc là, je pense que c'est avec la loi 21, si la loi 21 est cassée d'une quelconque manière par la Cour suprême, ben là, il va peut-être avoir un enjeu véritablement politique, véritablement constitutionnel. Mm-hmm. Qu'est-ce que la CAQ fera rendu là? Ben là, ça, c'est à suivre, avec en plus le PQ qui monte dans les intentions de vote. Donc, il pourrait avoir là, l'horizon, c'est ça, le 2026 à 2030, ça pourrait être un premier 4 ans intéressant en politique québécoise depuis quand même très longtemps, je pense.
Oui, tout à fait. On en est venu à espérer une crise constitutionnelle, je crois, au Québec. En tout cas, pour certains, un certain groupe de penseurs, là, je dirais, l'espèce de ton monotone et ce que j'ai appelé, ce que j'emprunte de différents penseurs, là, l'assèchement de la politique, de la métapolitique au Québec, nous fait paradoxalement souhaiter qu'une crise constitutionnelle émerge un peu pour nous fouetter hors de notre stupeur et qu'on finalement on se reprenne en main, si on peut dire, au Québec, parce que j'avancerais la thèse là, que cette technocratisation de la politique et du débat, surtout, et de la pensée des Québécois moyens, à savoir le monsieur, madame, tout le monde qui lit le Journal de Montréal, qui dit que les grands enjeux du Québec sont ceux à savoir, comme j'ai dit, là, combien d'infirmières il faut par quart de travail dans tel hôpital, à tel... Donc, c'est des questions que le Québécois moyen ne devrait pas se poser, mais on en est rendu là, et ce qui est très restreint comme champ de pensée, je crois. Et ça nous mène, ou ça mène certains, à espérer cette crise constitutionnelle qui ne sera pas nécessairement gagnante. C'est là où c'est plutôt mon analyse de la chose qu'une question. Mais on souhaite la crise, mais il faut la gagner. Et après, il faut définir ce qu'est une victoire de cette crise. Parce qu'une défaite, et là je remonte à Meach et ensuite référendum de 95, c'est qu'on a eu la crise constitutionnelle à l'époque. J'étais trop jeune, bon, je m'en rappelle, mais j'étais trop jeune pour être impliqué intellectuellement ou politiquement. Mais on a eu la crise constitutionnelle voulue. On a eu l'occasion de la gagner avec le référendum, dans le sens où triompher, utiliser la crise à bon escient et donc en triompher. Et bien sûr, on a échoué. Et bon, là, j'étire le sujet un petit peu. Je voulais passer à autre chose, mais je pense que c'est intéressant et pertinent. Quelle serait une victoire après cette... Ou du moins une condition... J'ai envie de dire les conditions gagnantes, mais c'est pas exactement ça, là. Mais comment dire... Quelle serait, une situation gagnante pour le Québec, à vos yeux, à votre avis, suivant une crise? Et quelle serait cette crise? On parle constitutionnel, là, bien sûr, mais ça deviendrait identitaire très rapidement, je crois. Comment définissons-nous la victoire? Comment définissons-nous la défaite dans un tel cas?
Ben moi, la victoire, je suis un farouche indépendantiste. Donc, à mon sens, la victoire ne peut qu'être l'indépendance, que uniquement quitter le Canada, qui est un pays qui me fait de plus en plus peur. Et la défaite, parce que là, c'est ça. Hein, il y a un risque. Parce que tout le monde, depuis que je suis jeune, et même encore aujourd'hui, mes élèves ont le pressentiment qu'il y aura un troisième référendum. Ouais, peut-être qu'on se trompe, mais on a le pressentiment qu'il y aura une ultime chance. Mm-hmm. Et tout le monde le sait que c'est la dernière, en quelque sorte. Mm-hmm. Hein? faut pas se mentir sur ce plan-là. Et dans le cas d'une défaite, je pense véritablement, et on pourrait faire l'argument que c'est déjà le cas malheureusement, mais que le Québec entrera dans une ère où les Québécois sont strictement des consommateurs. Mm-hmm. Hein, donc, et où tout ce qui importe, c'est la cellule familiale. Et ben évidemment, moi-même, j'ai un petit bébé à la maison. La cellule familiale, c'est très, très important. Mais il existe quand même quelque chose comme le commun. Il existe des valeurs qui nous transcendent, justement. Il existe des projets collectifs qui doivent transcender, justement, la cellule familiale. Et puis, j'ai l'impression que si on perd ça, eh bien, on va devenir Toronto, donc une mm-hmm. société essentiellement de consommation, que l'objectif, c'est d'avoir son voyage à Cuba au mois de mars. Et voilà. Et comprenez-moi bien, c'est tout à fait acceptable de faire un petit voyage à Cuba au mois de mars. Est-ce que c'est ça la fin de notre existence? Est-ce que c'est ça la finalité? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit aspirer à des valeurs supérieures. Et je pense que là, ça tombe peut-être presque dans l'aspect religieux, l'aspect spirituel, mais je pense que oui, dans l'idée de nation, il y a quelque chose qui nous transcende, il y a quelque chose au-dessus de nous. Et si on perd ça, ben justement, on se recroqueville vers la cellule familiale. Et le Québec même, et ça, c'est une autre option, le Québec va se tourner vers le Canada français et non vers le Québec. Et le Québec, c'est un État politique. Le Canada français, c'est simplement un groupe ethnique. Mm-hmm. Alors, donc oui, ça, la défaite serait terrible. Et je pense que ça, tout le monde en est très conscient.
Admettons la défaite d'un troisième référendum, est-ce qu'à vos yeux, le Québec est encore majoritairement francophone au 22e siècle?
Non, je ne penserais pas. Je ne penserais pas, surtout avec les plans de Trudeau avec l'immigration. Le 100 millions de Canadiens pour 2100, là, c'est un chiffre conservateur. Hein. Selon Statistique Canada, là, on s'enligne pour doubler en 25 ans notre population, donc ça va changer très, très vite.
Vous parlez de l'initiative du siècle.
Oui, voilà, exactement. Donc, mais Statistique Canada, justement, dit qu'on va beaucoup plus vite mm-hmm. que l'initiative du siècle. Donc, je pense que dans 75 ans environ, là, si on perd un troisième référendum, le Québec va s'angliciser ou il va devenir comme le Manitoba. Donc, il va garder quelques petites populations francophones. Mais, et ça, d'ailleurs, je fais un petit détour là-dessus. Bien parce sûr. Qu'il y a une conception avec le trudeauisme que l'objectif, c'est de pouvoir être servi en français, hein, d'avoir des droits linguistiques. Alors qu'il y a une conception du français au Québec qui est héritée notamment de Camille Lorrain qui dit non, c'est un écosystème français où on crée en français, on fait du commerce en français, on fait des arts en français. Donc, il y a deux vraiment conceptions ici de la langue qui s'opposent. Et j'ai l'impression que même si le Québec devenait minoritairement français, il y aurait une vision trudeauiste qui pourrait dire « Oui, mais ils ont encore leurs droits. Ils ont encore leurs droits linguistiques. Ils sont corrects. » Alors que, je respecte grandement ceux qui parlent français dans le reste du Canada, mais ils sont dans un état de survivance, là, soyons sérieux. Là. On voit leur population diminuer chaque année. C'est pas une situation qui est enviable. Et même eux, j'ose croire qu'ils seraient prêts à le reconnaître. Là.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler la louisianisation mm-hmm. du Québec. Là, que les paroles prononcées par M. Legault, d'ailleurs, le premier ministre, c'était aux dernières élections, je me rappelle bien, là, dans la dernière campagne mm-hmm. électorale. Ce qui a dû lui valoir certains votes pour ensuite augmenter les seuils d'immigration acceptés de ce que Ottawa faisait. Mais bon, ça, il faudrait un autre débat. Là. Dernièrement, je ne l'ai pas passé à côté, vous êtes enseignant au secondaire, là, on l'a mentionné. J'ai eu des négociations dernièrement, de toute évidence, qui, encore une fois, me semblaient relativement technocratiques, mais il y avait quand même un peu d'essence au sein des négociations, là, pour ce que j'ai pu en suivre, ce que j'ai pu en comprendre, à savoir non seulement la qualité de l'enseignement, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Vous posez, tu sais, philosophiquement parlant, bon, vous avez fait, de toute évidence, une formation en philosophie, en enseignement, et vous enseignez aujourd'hui. n'y a pas une critique à faire de, du curriculum au Québec aujourd'hui. À savoir, qu'est-ce qu'on enseigne vraiment à nos enfants, au-delà de certaines expertises qui pourraient peut-être un jour être utiles sur le marché du travail. Est-ce qu'il n'y a pas une critique profonde à faire à propos de l'éducation ou au contraire, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction?
Il y a énormément de critiques. L'école, il faut distinguer l'école secondaire, je pense, des programmes techniques à l'université ou HEC, par exemple, qui auraient d'autres choses à dire là-dessus, mais le secondaire, c'est une formation générale. Donc, je le dis dès le début de l'année à mes élèves, je ne monte jamais un cours en me disant que ça va vous servir sur le marché du travail. Donc, je les aide, oui, en français, on les aide à mieux lire, et la lecture, ça nous aide dans toutes les sphères de notre vie, mais je me dis jamais ça va t'aider quand tu seras un avocat ou peu importe. Non, c'est que lire, c'est quelque chose justement d'essentiel dans ta vie en général. Pas une question de marché du travail. Et avec la réforme du début des années 2000, on a voulu faire une espèce d'arrimage avec le marché du travail, et à mon sens, c'est une erreur. Parce que là, après ça, on entre dans une période d'argumentation, en quelque sorte, avec nos élèves. Donc, parce que nos élèves, rapidement, ils comprennent justement qu'il faut justifier en fonction de « Ouais, mais est-ce que ça va me servir, ça, plus tard? » Non, ça ne va pas te servir. Ça va donner du sens à ta vie. Ça va t'aider à réfléchir sur des enjeux concrets ou abstraits, mais ça ne va pas te servir sur le plan utilitaire. Donc ça, je pense que oui, c'est une erreur. Et sur le plan plus culturel, moi, j'ai beaucoup d'élèves, des anciens élèves aussi. Je leur dis, ben, vous terminez le secondaire et vous êtes étrangers à votre propre culture. On a un retard culturel sur notre propre culture. On ne forme pas des élèves québécois, on forme des élèves. Et puis, eux, finalement, n'ont pas un solide bagage, des références, lu des classiques, écouté des chansons. Ils ont peut-être croisé un ou deux enseignants, ou plus, c'est selon, dépendamment des écoles, qui avaient véritablement un intérêt particulier pour la culture québécoise, mais c'est un accident de parcours, en quelque sorte. C'est pas tant que ça voulu par le ministère de l'Éducation. Donc, ça serait une de mes critiques. Et donc, oui, ce serait mes deux critiques, en fait. Mais j'en aurais d'autres. Je sais pas si t'as un commentaire là-dessus, Philippe.
Oui, j'allais poser la question ou peut-être émettre le commentaire suivant. J'ai l'impression que d'une réforme à l'autre, on a fait que abaisser le niveau. Quand j'entends le mot réforme, aujourd'hui, j'entends on abaisse le niveau, on va faciliter les choses, plus personne ne va échouer. On multiplie le nombre de diplômes pour cacher le fait que de moins en moins d'élèves gradués du secondaire sont diplômés du secondaire, mais du moins les chiffres augmentent pas, ne sont pas en augmentation. J'ai oublié le pourcentage de Québécois qu'on pourrait qualifier de ce qu'on appelait analphabète fonctionnel, qui est peut-être maintenant devenu un terme ONI. Mais disons que le système d'éducation publique n'a pas réussi, je crois, a réussi à plusieurs égards. On a parlé de révision tranquille. Là. Je crois que l'école publique, somme toute, est un succès depuis sa création au milieu de la révolution tranquille. Je crois qu'on peut dire que c'est un succès. Je dirais qu'on est dans une pente descendante depuis 10 ou 20 ans au moins, par contre, au Québec. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais. D'une réforme à l'autre, j'ai l'impression que on ne fait que abaisser. On abaisse les niveaux, on abaisse les standards. C'est la même chose à l'université, c'est pas que le primaire et le secondaire d'ailleurs. On ne verse que dans l'utilitarisme, comme vous avez dit. Donc, en gros, on veut plus d'anglais, plus de maths. Je suis un petit peu grossier quand je dis ça, là, mais ça, on veut plus de culture parce que ça sert à quoi sur le marché du travail, comme vous avez dit. Est-ce que je me trompe quand je dis que d'une réforme à l'autre, ce qu'on fait fondamentalement, c'est simplement abaisser les niveaux?
L'objectif du ministère de l'Éducation, c'est de diplômer le plus de personnes possible. Je le phrase comme ça, je ne dis pas qu'il y a plus d'étudiants qui atteignent les seuils de réussite, mais bien de donner des diplômes. Donc, on va faire, depuis environ une dizaine d'années... C'est une machine à diplômes, vraiment. Depuis une dizaine d'années environ, donc, comme je disais, il est apparu ce qu'on appelle les plans d'intervention. Donc, peut-être que vous entendez parler de ça à l'occasion. Donc, les plans d'intervention, ce sont des stratégies qui sont mises en place pour aider des élèves en difficulté qui, en temps normal, n'auraient peut-être pas eu leur diplôme, mais le fait de leur donner ce petit coup de pouce-là va leur donner, va les aider. Donc, pareil, je vous donne plusieurs exemples. Il y a certains élèves, donc, qu'on va donner du ce qu'on appelle le tiers-temps. Donc, ils auront droit au le tiers de temps de plus pour faire un examen. Mmh. Donc, on leur dit, ben écoutez, si c'est un élève qui a de la difficulté, et si tu lui donnes le tiers temps, il va pouvoir réussir et avoir son diplôme. OK, d'accord, on pourrait gérer ça. Des élèves dyslexiques qui ont droit à un ordinateur, justement, parce qu'ils ont trop de difficultés à écrire avec un crayon et les lettres se mélangent. OK, à la limite. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que le plan d'intervention, qui était l'objectif à la base, c'était pour quelque chose comme 10 % des gens, là. Et là, maintenant, on se rend compte, c'est du 30-35. Dans certaines écoles, on est à 40 % de plans d'intervention. Quand on est rendu à 4, c'est la norme. J'ai déjà été dans des classes où c'était 70 % d'élèves avaient un ordinateur lors de la production écrite. Et là, tu dis, donc, l'élève normal est un élève... élève anormal en eBay aussi. Donc ça soulève d'importants enjeux. Et ça, je pense, ça doit résonner à notre époque, je crois. Le diagnostic aujourd'hui devient l'identité de la personne. Mm-hmm. Et on le voit aussi avec la question de la santé mentale. Et je lisais un article récemment là-dessus d'un professeur d'université aux États-Unis, Stephen Stuart William, qui est présent sur Twitter notamment, qui expliquait que anciennement, on disait faire une présentation orale me cause du stress, par exemple. Hein, ce qui nous arrive, enregistrer un balado me crée du stress.
Ouais, c'était mon cas à l'époque, je me rappelle très
bien. Oui. Eh bien là, on va changer la phrase en disant « je ne peux pas faire X parce que je fais de l'anxiété ». Donc, ça devient véritablement l'identité de la personne, ce qui est une erreur monumentale à faire. Et il y a de plus en plus de médecins là, qui commencent à alerter, de dire un élève qui est TDAH, un élève qui est dyslexique ou peu importe, il est quand même capable de fournir des efforts, il est capable de mettre plus de temps. Parce qu'il y a vraiment un peu cette idée-là à l'école secondaire que le dyslexique, là, il ne peut pas en faire plus. Il est condamné, c'est ça. Donc, il faut juste lui donner plus d'outils. Et ça, on le voit, je pense, avec la question de la santé mentale, qui est un des sujets très importants pour l'époque. Il y a comme une espèce de fatalité avec ça. Évidemment, je ne suis pas en train, il y a des personnes qui sont vraiment en détresse psychologique et qui ont besoin de soutien. Mmh. Mais quand je lisais un sondage où 57% des Britanniques à l'université ont des problèmes de santé mentale, je suis désolé, c'est impossible que 57% des gens aient des problèmes de santé mentale à l'université. Donc, mais justement, on met tellement de l'avant le diagnostic. Tu sais, qu'on entend des jeunes au primaire, je l'entends dire « Ah non, moi, je fais de l'anxiété. » C'est pas normal qu'à 9-10 ans, on se dise ça.
Ils sont diagnostiqués eux-mêmes.
Oui, il y a de l'auto-diagnostic là-dedans aussi. Mmh. Donc, et ça, c'est une idée forte de la gauche, c'est de faut enlever le plus de tabous possible. Hein. Faut toujours parler le plus librement des sujets qui paraissent tabous. C'est vrai qu'à une certaine époque, on parlait très peu de la santé mentale. Est-ce qu'on est rendu de l'autre côté où on cherche la santé mentale partout ou des problèmes de santé mentale partout, même quand il n'y en a pas? Là. Donc ça, c'est des questions à se poser, je pense. Mais à nouveau, la question de la santé mentale, je pense que c'est un enjeu très, très important aujourd'hui. C'est difficile de réfléchir avec un esprit critique.
Je crois qu'il y a un aspect aussi de santé mentale, d'enjeu de santé mentale sélectif en ce qui a trait à, lors de mon épisode avec Jean-Philippe Trottier, on parlait de la condition de l'homme, c'est le monsieur, comme on dit, au Québec, pour avoir fait certaines lectures sur le sujet, un aspect de ceci qui remonte souvent à la surface, c'est que la détresse psychologique chez les hommes, c'est pas qu'au Québec, là, c'est un peu partout en Occident, est à peu près inaudible. Donc, les enfants, bien sûr, tout le monde va en parler, ce qui est absolument normal. Moi aussi, je suis père, donc je suis sensible à ces questions. Chez les femmes, surtout, on va toujours porter attention à la santé mentale des femmes, les personnes âgées. Il y a plusieurs catégories victimisées, sont plutôt victimaires, ou de victimes, tout simplement, là, à qui on va porter une attention, ou auxquelles on va porter une attention spécifique en termes de santé mentale, mais l'homme, comme je dis, le monsieur... souvent, on s'attend à ce qu'ils souffrent mentalement en silence, si possible. Donc il y a ça, je pense qu'il vient avec la gauche. C'est plus un commentaire qu'une question, mais en fait, je voulais vous poser, en terminant, peut-être une question basée encore une fois là, sur ce que vous avez mentionné en termes de philosophie à l'école. Vous avez parlé des étudiants, des élèves en difficulté. J'avais envie de poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait pour les plus doués?
On ne fait pas grand-chose. C'est ça la réponse. On ne fait pas grand-chose. Et ils sont laissés à eux-mêmes, ça c'est certain. Et puis, il y a des données là-dessus, je ne les ai plus en tête, mais c'est un pourcentage important de décrocheurs qui sont des élèves qui sont bons à l'école, mais qui sont un peu laissés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, bien sûr, les programmes enrichis, les programmes internationaux, par exemple, est généralement vu d'un mauvais œil, hein, et vu comme élitiste, surtout dans les départements universitaires. Hein, les départements universitaires en pédagogie, j'en aurais beaucoup à raconter là-dessus. Mais donc, tout ce qui ressemble à de l'élitisme, c'est très, très mal vu. Et ce qu'on se rend compte, justement, donc, et ça, à nouveau, il y aurait une critique de gauche, à mon sens, à faire, de dire, ben, écoutez, les programmes élitistes, entre guillemets, pouvaient servir aussi aux personnes d'origine plus modeste. Il y a des belles histoires à l'époque des collèges classiques, hein, où on voyait des jeunes qui, de milieux défavorisés, mais qui avaient un certain talent, et la communauté pouvait se cotiser, ou l'Église disait ben, il faut vraiment l'envoyer faire son latin, sa philosophie, sa littérature, etc. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ben, au nom de l'égalité, justement, ben là, on va mettre tout le monde sur un même pied d'égalité et on ne poussera personne finalement à aller plus loin. Hein, je lis beaucoup de choses aux États-Unis où on dit ben, il faut arrêter de donner des devoirs parce que les devoirs aident les personnes qui sont en situation économique plus riche. Donc, parce que ceux qui ont des parents, finalement, qui n'ont pas beaucoup d'argent, ben, des fois, ils n'auront peut-être pas le temps d'aider leurs enfants dans les devoirs, et ça va être les parents qui ont de l'argent, donc peut-être plus de temps, donc peut-être un tuteur, qui vont faire les devoirs. Je comprends l'idée, mais en même temps, si on ne met pas de devoirs, si on ne met pas des attentes qui sont élevées, ceux qui ont droit à un tuteur, ils vont le prendre quand même, le tuteur, et ils vont faire des exercices supplémentaires. Donc, vous nuisez finalement à ceux que vous prétendez aider, et ceux qui sont déjà en situation enviable, ça va continuer de bien aller parce que la fin de semaine, l'été, ils vont aller en voyage, ils vont aller dans des musées, ils vont avoir un environnement riche sur le plan culturel. Hein, en fait, ça défait la thèse de Bourdieu, hein, sur l'école. Bourdieu, c'était ça l'idée. Il disait, ben, écoutez, si on égalise le tout, si on enlève, si on empêche la reproduction culturelle, hein, c'est les termes, je pense, qu'il utilisait, ben, les pauvres, justement, vont bien s'en tirer. Parce qu'on se rend compte, c'est quoi? C'est que, non, les pauvres ne s'en tirent pas mieux et les riches continuent de bien s'en tirer. C'est ça, la réalité.
Oui, l'égalité, souvent, est un nivellement, en réalité. Donc, on abaisse les plus forts, mais on a discuté à faire remonter les plus faibles. Ouais. Ça, il y a une injustice, à mon avis. Il y a une réalité de classe sociale, là, par contre. Je crois que c'est évident que ce qu'on appelait à l'époque les bourgeois et ce qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière avait clairement des occasions et un potentiel humain différent, ce qui faisait que, bien sûr, qu'on était né bourgeois, les chances étaient qu'on reste bourgeois. Mm-hmm. Si on était né dans la classe ouvrière, les chances étaient qu'on reste dans la classe ouvrière. Là. Donc, ça se reproduisait. Je pense qu'il y a une certaine vérité là-dedans. C'est pas une analyse de gauche, oui. Mais je pense que je suis plutôt en accord avec. Mais aujourd'hui, on n'a fait qu'abaisser tout le monde. Commenter sur...
Le diagnostic est le bon, c'est la solution qui n'est pas la bonne, en fait.
Ce qui est souvent le cas. De mm-hmm. la gauche, je crois, je me surprends moi-même à utiliser des analyses marxistes assez souvent dans mes textes, dans mes conversations, dans mes chroniques. Sauf qu'encore une fois, très bien dit, ma conclusion est différente, ma solution, entre guillemets, est différente. Il y aurait une conversation à avoir à ce sujet. Oui, pour commenter, vous avez dit, ça m'a amené à l'esprit, je crois que c'était Thomas Sowell, qui est un intellectuel américain, un économiste, et il appelait en anglais la « tyranny of low expectations », la tyrannie des attentes trop basses ou minimes. Mm-hmm. Envers certaines minorités, je pense qu'il parlait des Afro-Américains en particulier. C'est un peu la logique que vous avez développée, je sais, là, que vous avez illustrée de façon très apte. Donc, oui, tout à fait. Finalement, mot de la fin, plutôt. David Santarossa, La pensée woke, en librairie. On peut se... Je me dis dans toutes les bonnes librairies. Oui. Publié aux éditions Liber. Bon, si je peux le dire, une lecture intéressante, très bien écrite, très bien articulée. Comme j'ai dit, une présentation du wokisme et de sa critique, comme il en existe peu ou pas. Mot de la fin, David Santarossa.
Ah ben merci, merci Philippe de m'avoir invité, c'est très intéressant et j'espère qu'on s'en reparlera bientôt.